Bien, il est 10 heures à cette horloge, nous pouvons commencer. Donc c'est le dernier cours de l'année pour cette série. Il y a aussi le dernier, on a commencé au mois d'octobre sur les problèmes du texte de théâtre entre la scène et la page. Et aujourd'hui, je voudrais, puisque nous avions consacré les premiers cours à une analyse assez méticuleuse d'une pièce particulière, celle de... Antonio José da Silva, la vie du grand Don Quichotte. Et ensuite, nous avons surtout transporté dans l'Angleterre élisabéthaine pour traiter un certain nombre de questions sur les rapports entre le texte imprimé et le texte tel qu'il a été, on peut le supposer, représenté. Aujourd'hui, je voudrais terminer avec un retour en France pour essayer de voir comment un certain nombre de... questions qui ont été posées par la spécificité des formes du théâtre en Angleterre, ou éventuellement nous l'avons juste évoqué dans le cas de la Commedia du siècle d'or, peuvent s'appliquer sur le théâtre français et du coup peut-être déplacer un certain nombre de nos manières de comprendre, interpréter le répertoire que nous qualifions de classique. Et je le ferai à partir d'une réflexion sur un auteur sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années, que je peut-être reprends en ce moment, et qui est le travail sur un certain nombre de pièces de Molière, mettant à profit une édition récente des œuvres complètes, celle qui a été publiée cette année dans la bibliothèque de la Pléiade de Gallimard par Georges Forestier et Claude Bourqui, et qui permet non seulement de poser la question de savoir ce qu'est éditer un texte de théâtre aujourd'hui, mais aussi une comparaison avec une édition canonique, classique, qui avait beaucoup de mérite, celle de Georges Couthon, publiée en 1971 dans la bibliothèque de la Pléiade. Et donc la comparaison que je ferai sur certains points entre ces deux éditions nous permet d'entrer dans un certain nombre des questions pour la France que nous avions rencontrées pour le théâtre élisabétain. Et parfois d'ailleurs aussi en écho avec certains thèmes abordés dans le séminaire. Alors lorsqu'on est confronté à une édition, qu'elle soit de théâtre ou pas, la question évidente est celle de la possible ou difficile conciliation entre ce qui serait de donner un texte lisible pour le lecteur d'aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, de respecter l'historicité de ce texte et faire comprendre comment il a été composé, publié, approprié, avec des catégories, des attentes qui ne sont pas celles du lecteur contemporain. Et c'est là toujours la difficulté des éditions, surtout lorsqu'elles veulent avoir un public plus large que celui des seuls spécialistes. De là, plusieurs questions se posent. Vous vous en souvenez sans doute lorsque j'ai évoqué un certain nombre de pièces du répertoire élisabétain et aussi le cas plus particulier de Shakespeare. Dans quel ordre doit-on publier des pièces? D'autre part, à laquelle des éditions anciennes doit-on se référer pour l'utiliser comme copy-text, comme base de l'édition contemporaine? Et d'autre part, problème tout à fait fondamental, quel est le respect qui doit être donné aux formes même d'inscription du texte sur la page, à ce que l'on peut appeler sa matérialité, et tout particulièrement en pensant à la ponctuation. Alors, je commencerai le cours d'aujourd'hui avec ces trois questions posées au corpus de Molière. La tradition, qui est sans doute née, s'est cristallisée à la fin du XVIIIe siècle, en particulier avec l'édition de Au moins désiré de Edmond Malone pour les œuvres de Shakespeare, était dans un moment où, on l'a dit plusieurs fois ici, se met en place une relation forte entre l'individualisation de l'écriture, l'originalité de l'œuvre référée à la spécificité de la trajectoire d'existence et du coup possiblement une définition d'une propriété intellectuelle, avait entraîné l'idée selon laquelle l'ordre pour publier des textes dans des œuvres complètes doit être l'ordre chronologique de la composition des œuvres, puisque à partir de ce moment-là, une relation immédiate s'établit entre le déploiement du génie de l'auteur à travers son œuvre et d'autre part la trame chronologique de son existence. Et de là, dans le cas des œuvres shakespeariennes, à la fin du XVIIIe siècle, volonté de briser avec l'ordre classique de toutes les éditions antérieures, c'est-à-dire un ordre thématique, les comédies, les histoires, les tragédies, parfois ajustées au XVIIIe siècle avec l'introduction de distinctions comme tragédies fondées sur des faits historiques, tragédies de pure fiction, ou bien l'introduction d'une catégorie comme celle de romance. Mais un ordre thématique qui cède la place à un ordre chronologique qui va s'imposer pour les pratiques éditoriales, et dans le cas de Molière, les éditions complètes, à commencer par celle de Georges Couton de 1971, suivent l'ordre supposé chronologique de la composition et des pièces, et donc s'ouvrent avec les farces, dont on a retrouvé des textes tardivement, mais qui sont considérés comme les premières œuvres de Molière, La jalousie du barbouillé ou Le médecin volant. Et face à cela, cette édition de la Pléiade, comme d'autres, prend un autre parti, qui est de prendre comme trame la chronologie de la publication des pièces. Non l'ordre possible ou supposé de leur écriture, mais l'ordre de leur publication imprimée, ce qui fait que les volumes qui s'ouvraient généralement avec ces premières farces écrites par Molière, non seulement celui de Couton, mais d'autres, s'ouvrent ici avec la première pièce jamais imprimée du vivant de Molière, qui est Les précieuses ridicules, publiée en 1660. On voit donc qu'il y a une redistribution chronologique qui joue sur cet écart entre composition et publication, puisqu'évidemment, avant 1660, Molière a écrit et composé d'autres pièces, non seulement ses farces, dont ne subsistent peut-être que des canevas, mais aussi des pièces qui seront publiées postérieurement aux Précieuses Ridicules, mais qui ont été écrites antérieurement dans les années de province de Molière, en particulier lorsque la troupe joue dans le Languedoc, très souvent pour la réunion annuelle des États du Languedoc, ou bien pendant le séjour à Lyon, c'est-à-dire les années 1646-1653. L'étourdi et le dépit amoureux sont des pièces des années 50, en 1653 ou 55, pour l'une et l'autre. Or, elles n'apparaîtront comme imprimées qu'après quatre éditions parisiennes, celle des Précieuses, celle de Sganarelle ou Le cocu imaginaire, celle des Fâcheux et celle entre le Sganarelle et les Fâcheux de l'école des Maris. Et d'autre part, cette redistribution chronologique fait publier à la fin de cette trajectoire temporelle les sept pièces qui n'avaient jamais été imprimées du vivant de Molière, même si elles ont été écrites avant des pièces qui ont été, elles, imprimées, et qui ont été publiées pour la première fois dans l'édition des œuvres complètes de Molière de 1682, pris en charge par Lagrange et un autre comédien de la troupe, et qui, pour la première fois, à la fois donne ces pièces, ces sept pièces jamais publiées auparavant, la plus fameuse étant évidemment le Festin de Pierre, le Don Juan ou le Festin de Pierre, et d'autre part, introduit en 1682 une première esquisse d'une relation entre la vie et l'œuvre, puisque l'on y trouve une vie de Molière qui ouvre le volume. Et on peut dire aussi, paradoxe, que les pièces, les premières de Molière, sont les dernières à entrer dans l'imprimé, puisque les deux farces, la jalousie du barbouillet et le médecin volant, ont été publiés seulement et par Viollet-le-Duc en 1819. Donc, on peut essayer de raisonner sur cette question de l'ordre chronologique suivi lié à la publication et non pas lié à la composition. Il est évident qu'il y a une première raison, qui est que pour beaucoup de pièces élisabéthaines ou de Molière, il y a une certaine incertitude sur la composition. Mais plus profondément, c'est qu'on peut penser que, comme je le disais la fois dernière, l'écart existe entre le texte tel qu'il est publié et le texte tel qu'il a été et composé et joué. Et pour l'Angleterre, on avait essayé d'évoquer un certain nombre des raisons qui pouvaient justifier cet écart entre le texte tel qu'il est imprimé et le texte tel qu'il a été composé ou joué. Les deux comédies des années provinciales, c'est-à-dire L'étourdi et le dépit amoureux, ont été évidemment reprises par Molière lorsque, arrivé à Paris, il les a données dans le contexte de ses autres créations, commencées avec Les Précieuses. Mais un cas plus spectaculaire de ces écarts entre pièces jouées, pièces composées, pièces jouées et pièces publiées est évidemment le Tartuffe, dans la mesure où l'on sait qu'il y a trois états de la pièce, mais seulement un est connu. La première état, c'est en 1664, lorsque le Tartuffe en trois actes est représenté à Versailles, dans le contexte, j'y reviendrai, d'une fête royale, qui est la fête des plaisirs de l'île enchantée, c'est le 12 mai 1664, et la pièce est immédiatement supprimée par le roi, comme il est dit, puisqu'elle heurte l'Église, à commencer par l'archevêque de Paris, mais continue une vie de ce Tartuffe en trois actes dans des représentations privées chez Monsieur, qui était le titre du frère du roi, chez le prince de Condé. Elle a aussi une vie à travers des lectures publiques et son titre semble avoir été à ce moment-là l'Hypocrite. Il y a un deuxième état en 1667, lorsque Molière essaye de reprendre la pièce pour la donner sur son théâtre, c'est-à-dire le théâtre du Palais Royal, avec le titre de L'Imposteur. Et la pièce est représentée une seule fois, et l'interdiction par le Parlement et par l'archevêque de Paris fait interrompre la série supposée des représentations. Il y a donc un troisième état en 1669, et à partir de là, la pièce est reprise, elle a une édition imprimée, le titre est Tartuffe ou l'imposteur, et c'est le seul état connu et accessible de la pièce. Et à partir, puisque autres séminaires ou autres cours, comme on le sait, les manuscrits autographes ont pratiquement tous disparu pour les auteurs du XVIIe siècle. Donc le seul état était l'état imprimé de 1669 qui peut être considéré comme une sorte de palimpseste, un texte qui a été réécrit sur un texte, qui a été réécrit sur un premier texte, qui suppose qu'ont été multipliés les ajouts, les suppressions, les retouches, et finalement, plus profondément, une transformation de la signification du texte, puisque Tartuffe ou l'imposteur est une pièce qui est la dénonciation d'un faux dévot, alors que le premier Tartuffe, peut-être que l'Église ne s'était pas trompée sur les raisons de le faire interdire, qui a pour titre l'hypocrite, était l'hypocrisie des dévots eux-mêmes, les vrais, pas que l'imposteur qui est ce faux dévot qui est Tartuffe. La conséquence de cela est qu'il est impossible de supposer que le texte de 1669, qui est celui dont nous disposons et que les troupes peuvent jouer aujourd'hui, est la pièce qui a été jouée en 1664. Il y a donc là une raison forte pour, évidemment, une contrainte. Il n'y a que ce texte imprimé, mais en même temps, une raison pour restituer la chronologie du théâtre de Molière telle qu'elle est accessible, non pas évidemment à des publics de spectateurs, mais à des lecteurs plus nombreux que les publics de spectateurs et qui connaissent Molière dans l'ordre de l'imprimerie et non pas dans l'ordre de la composition ou de la représentation. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième, vous vous en souvenez, fondamental pour le monde élisabétain, c'est celui de à quelle édition faut-il faire retour ? Est-ce qu'il faut prendre la dernière édition du vivant de l'auteur, la première édition la pièce ? Le débat est ouvert de manière extrêmement vaste. Ici, dans le cas des choix faits par Forestier et Bourqui, comme dans des tentations pour les textes shakespeariens récents, est l'idée du retour à la première édition, considérant que cette première édition, publiée après ou pendant un cours de représentation, était celle qui était les plus fidèles aux textes représentés, même si l'on admet comme hypothèse de départ un écart irrémédiable entre le texte publié et le texte représenté. Et du coup, cela entraîne comme conséquence une distance prise par rapport aux éditions posthumes, par exemple celle des œuvres de 1682, 10 ans après la mort de Molière, de 1673, pris en charge par un consortium de 3 libraires éditeurs, Thierry, Barbin et Trabouillet, et sans doute établi par ce comédien Lagrange, qui était celui aussi qui tenait le registre des recettes de la troupe et qui a laissé un journal qui est extrêmement précieux pour savoir à quel moment, quelle pièce a été représentée et quelle a été, à travers l'importance différente de la recette, l'accueil du public. Et peut-être aussi avec la présence de la veuve de Molière derrière cette édition, et qui a pu être considérée comme donnant autorité au texte. Or, dans le parti pris par Georges Forestier et Claude Bourqui, et au-delà, il y a une distance prise par rapport à cette édition, je cite leur introduction, on ne trouve aucune variante d'importance qui puisse être mise au compte de Molière. On trouve des variantes d'importance, mais l'idée fondamentale est qu'elle relève d'une réécriture, d'une reformulation par les éditeurs de 1682 pour de multiples raisons, mais que donc du coup, se rapporter aux premières éditions est à la fois se rapporter à l'entrée de Molière dans une sorte d'espace public de la perception de son œuvre, se rapporter aussi au plus près à ce qui pouvait être le manuscrit donné à la troupe pour être joué. Un cas spectaculaire, et je vais en donner des exemples, est le malade imaginaire. Puisque vous savez que Molière meurt après la 4e représentation, le 17 mars 1673. Et de cette pièce, il existe 3 textes. Le premier est de l'année suivante, 1674, publié à Rouen, sous une fausse adresse de Cologne, un cas de contrefaçon sur lequel je pourrais revenir. L'origine de ce texte reste indécise. Et il peut être une copie qui a été faite et dérobée à la troupe. Il peut venir d'une reconstruction mémorielle et d'une transcription de cette reconstruction mémorielle, mais c'est le premier état du texte. En 1675, l'œuvre est publiée pour la première fois dans le tome 7 des œuvres de Molière, publié par Thierry et Barbin, donc la première, l'édition des œuvres complètes antérieure à celle de 1682, et sans doute à partir d'un manuscrit que possédait Armand de Béjart. Et en 1682, la pièce apparaît dans le tome 8 des œuvres, corrigée sur l'original de l'auteur, qui est l'édition que j'évoquais. Et on peut partir de ce texte dans la mesure où la préface de cette édition va sonner assez familière pour vous en rapport avec ce qu'on avait vu avec les textes élisabéthains. La préface donc de 1682 s'ouvre ainsi. « Voici une nouvelle édition des œuvres de feu Monsieur de Molière, augmentée de 7 comédies et plus correcte que les précédentes, dans lesquelles la négligence des imprimeurs avait laissé quantité de fautes considérables jusqu'à omettre ou changer des vers en beaucoup d'endroits. On les trouvera rétablis dans celle-ci, et ce n'est pas un petit service rendu au public par ceux qui ont pris ce soin, puisque les nombreuses assemblées qu'on voit encore tous les jours aux représentations des comédies de ce fameux auteur font assez connaître le plaisir qu'on se fera de les avoir dans leur pureté. » On voit donc qu'il y a l'idée du retour au texte « true and original », comme on voyait en anglais, c'est-à-dire le texte authentique voulu par Molière et un texte qui a été maintenant rétabli contre les corruptions apportées par sa transmission. Et le deuxième élément que l'on trouve dans cette préface, et c'est cette relation qui s'établit entre l'existence de Molière, la vie, et d'autre part, les contraintes qui pèsent sur la production des œuvres. Ces contraintes sont de deux ordres. L'une qui est de l'obligation faite par les commandes des protecteurs, les différents protecteurs successifs, Conti, Monsieur, le roi. Et donc, du coup, la hâte ou l'urgence dans laquelle un certain nombre de pièces ont été produites, et on voit donc là qu'un fait social, Molière dépendant de la protection, a une traduction esthétique. Et le deuxième élément est plus lié là à ce qui va façonner les biographies littéraires, c'est-à-dire un rapport entre ce qui peut être considéré comme le comportement, le tempérament, l'humeur de l'individu, et d'autre part, les modes de composition des pièces. Je prends un passage de cette préface. « Quoiqu'il fût très agréable en conversation, donc Molière, lorsque les gens lui plaisaient, il ne parlait guère en compagnie, à moins qu'il ne se trouvât avec des personnes pour qui il eût une estime particulière. Cela faisait dire à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il était rêveur et mélancolique. Mais s'il parlait peu, il parlait juste. » Et d'ailleurs, il observait les manières et les mœurs de tout le monde. Il trouvait moyen ensuite d'en faire des applications admirables dans ses comédies, où l'on peut dire qu'il a joué tout le monde, puisqu'il s'y est joué le premier, en plusieurs endroits, sur des affaires de sa famille, et qui regardait ce qui se passait dans son domestique. C'est ce que ses plus particuliers amis ont remarqué bien des fois. Donc, un jeu sur à la fois une théorie des humeurs qui domine les XVIe et XVIIe siècles, ici Molière comme mélancolique, et puis, d'autre part, une relation établie entre les contenus d'un certain nombre de pièces et ce comportement en public qui applique dans la pièce de théâtre ce qui a pu être l'observation faite dans la vie sociale, ce qui est un usage d'ailleurs du terme application qui est si fréquent dans les textes anciens, assez paradoxal, puisqu'en général c'est plutôt comment le texte de théâtre est appliqué à une situation politique ou sociale du monde réel qui est en jeu. Alors du coup, dans ce contexte de 1682, on a à la fois ce monument à la gloire de Molière, déjà qualifié de fameux, un processus précoce de canonisation. On a d'autre part cette première esquisse d'un modèle qui va lier des traits de l'existence biographique et les modes de composition ou les dispositifs esthétiques des œuvres. Et on a la publication, dans le cas précis, d'un troisième texte du Maladème imaginaire, qui est considéré comme celui qui était doté de plus d'autorité, mais qui peut être contesté dans ce statut parce qu'il est clair qu'il y a des réécritures se sont imposées sur le texte de 1675 et ont pu être au fondement d'un certain nombre de mythe construit autour de Molière. On peut en prendre un exemple dans le malade imaginaire, qui est la quatrième scène du troisième acte, lorsqu'il y a une discussion entre Argan, il faut que je retrouve mon exemplaire qui est ici. Voilà, une discussion, c'est compliqué, il aurait mieux valu avoir un ordre plus... Bon, où est ce texte? Je suis désolé de cette difficulté de mise en scène de cette pièce qui a disparu, mais qui doit se trouver ici. Et donc, dans le texte de 1675, ce dialogue entre Bérald et Argan se développe de la façon suivante, et c'est le texte choisi pour l'édition. Je souhaiterais, dit Bérald, seulement pour vous désennuyer, vous mener voir un de ces jours représenter une des comédies de Molière sur ce sujet, c'est-à-dire les médecins et la maladie. Argan, ce sont de plaisants impertinents que vos comédiens, avec leurs comédies de Molière. C'est bien affaire à eux à se moquer de la médecine. Ce sont de bons nigauds et je les trouve bien ridicules de mettre sur leur théâtre de vénérables messieurs comme ces messieurs-là. Bérald, que voulez-vous qu'ils y mettent que les diverses professions des hommes? Nous y voyons bien tous les jours des princes et des rois, qui sont du moins d'aussi bonne maison que les médecins. Argan. Par la mort, nom d'un diable, je les attraperais bien quand ils seraient malades. Ils auraient beau me prier, je prendrais plaisir à les voir souffrir. Je ne voudrais pas les soulager en rien. Je ne leur ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Je me vengerais bien de leur insolence et je leur dirais « Crevez, 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 mes petits messieurs. Cela vous apprendra à vous moquer une autre fois de la faculté. » Ils ne s'exposent point, dit Bérald, à de pareilles épreuves, et ils savent très bien se guérir d'eux-mêmes lorsqu'ils sont malades. Ça, c'est le texte de 1675, et dans la réécriture de 1682, qu'on a pu attribuer à Donneau de Visé, le texte s'étend, mais vous allez voir, se déplace, et va construire une sorte de mythologie qui accompagne le processus de canonisation. Alors, le texte commence, et pour vous divertir, j'aimerais vous mener voir quelques-unes des comédies de Molière. Argan. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens, comme les médecins. Ce ne sont pas les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui de se mêler, de contrôler la médecine. Voilà un bon nigaud, un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'on y mette? Que les diverses professions des hommes, on y met bien tous les jours des princes et des rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Par la mort, nom de diable, si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aura beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai « crève, crève, cela t'apprendra une autre fois » à te jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé, et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui, s'il n'a point de secours au remède. Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie, mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. On voit l'extension du texte, qui est celui qui est généralement joué, mais vous avez vu que d'une part, on passe du pluriel voir les comédiens à Molière, et donc ce qui est attribué dans le texte de 1675 à cette moquerie de la médecine, c'est les comédiens qui jouent les comédies de Molière, et le pluriel est employé aussi par Argan, je les attraperai bien. Et alors que la singularisation de Molière est au centre de cet échange étendu de 1682, Et d'autre part, lorsque je parlais de mythologie construite, c'est le fait que la santé de Molière en 1675 n'est pas mentionnée, et ici se construit, 10 ans après sa mort, l'idée d'un Molière durablement malade, tellement malade qu'il ne peut supporter ni les médecines, ni les médecins. Et ce début de figure, d'image, d'un Molière durablement malade, épuisé par la représentation, la quatrième, du malade imaginaire et mourant, perdant conscience après le jour de la scène finale, est déjà là en place, alors que les textes du temps, en 1673, sont plutôt marqués par la surprise devant la brutalité inattendue de la mort de Molière. On voit donc que cette réécriture de 1682, elle prend place à l'intérieur de ce processus de canonisation et on pourrait dire dans un certain sens de mythologisation de Molière et qu'effectivement, un des partis possibles est de revenir au texte de 1675, même s'il est posthume, mais en même temps sans doute plus près de ce qui pouvait être joué et avec une plus grande brièveté, un accent mis sur les comédiens plus que sur Molière et une absence beaucoup plus forte du dramaturge dans son texte que ne le donne 1682. On voit donc qu'on est là face à une question importante, quel texte prendre comme texte de base pour l'édition ? Comme s'il y avait d'ailleurs une sorte de tension présente entre ce que j'ai dit d'abord, c'est-à-dire dans les éditions des œuvres complètes, de suivre un ordre, et dans ce cas-là, l'ordre de publication, c'est-à-dire de déplacer finalement la construction de l'œuvre du côté des lecteurs et du public de l'imprimé, et de l'autre part, de maintenir une proximité avec la volonté auctorielle qui serait moindrement trahie dans les premières éditions imprimées. Et donc, c'est ce croisement de ces deux logiques qui peut caractériser le rapport avec ces textes de théâtre anciens. On le verrait évidemment que cette souci de revenir à des éditions originales, on le verrait dans les développements qu'ont eu les publications des quartos shakespeariens, bons ou mauvais, par rapport à la canonisation, là aussi, un peu plus de 10 ans après la mort de Shakespeare, dans le folio de 1623, et donc du coup de faire retour à des textes des quartos parce que considérés comme plus proches à la fois de la performance, de la représentation, et plus proches de la composition originelle. On est là devant un problème et qui peut diviser évidemment non seulement la pratique éditoriale, mais aussi la relation critique avec les textes. Le troisième trait de question, non seulement l'ordre chronologique, le retour aux éditions originales, parfois contre, et même souvent contre, les premières formes de monumentalisation de l'œuvre. Le troisième point, c'est celui du respect du texte tel qu'on le rencontre dans les éditions originales. Et là, on trouve un problème fondamental qui avait fait l'objet d'une discussion dans un des séminaires, sinon des cours, qui est ce problème du respect de deux éléments clés pour la typographie ancienne, c'est-à-dire la ponctuation et d'autre part les majuscules ou les lettres capitales. Lorsque vous êtes face à des éditions qui modernisent la ponctuation, par exemple celle de Couthon de 1971, il y a deux effets, une réduction du nombre de signes de ponctuation et la suppression des lettres capitales dans des mots qui ne sont ni le premier mot d'une phrase, ni les mots des institutions. Alors, ceci peut être important et créer une incompréhension du texte. D'une part, parce que les lettres capitales dans le cours des phrases, pour des mots qui ne sont pas des mots d'institution, est une indication forte de l'emphase, c'est-à-dire le fait que pour celui qui lira à haute voix, il y a la nécessité soit de détacher le mot, soit de hausser la voix. Et cette ponctuation d'intonation, qui a toujours manqué dans les systèmes de ponctuation tels qu'ils sont mis en place à partir du milieu du XVIe siècle, il y a des ponctuations de pause, virgule, point virgule, deux points, point final. Il n'y a pas de ponctuation d'intonation qui indiquerait comment la voix doit être modulée avec des emphases opposées à des voix basses. Spitzer aurait appelé l'effet de sourdine dans un texte célèbre sur Racine. Donc, la ponctuation qui est liée à ce trait paradoxal, qui n'est pas un signe de ponctuation, mais qui est l'utilisation de lettres majuscules, de lettres capitales pour un certain nombre de mots, est fondamentale et disparaît avec les modernisations de la ponctuation. Et ce que je dis là est appuyé évidemment sur les manuels de la typographie ancienne, à commencer par les Mechanic Exercises on the Art of Printing de Moxon, qui date de 1682-83, et dans lesquels, très clairement, il est indiqué aux compositeurs et aux correcteurs que l'emphase est marquée par l'utilisation d'une lettre capitale. Et évidemment, les auteurs peuvent avoir incorporé ce dispositif typographique et indiqué ou mentionné dans leur propre manuscrit cette emphase avec des lettres capitales. Et quand bien même l'auteur n'y serait pour rien, c'est une indication adressée au lecteur, et en particulier un lecteur qui est un lecteur qui lira à voix haute ou qui, dans une lecture silencieuse, pourra imaginer des différences d'intonation et de hauteur de voix. Et d'autre part, les ponctuations, elles, sont aussi productrices d'effets esthétiques et sémantiques. Alors, évidemment, la question posée est celle de l'attribution de ces décisions sur les ponctuations et sur les lettres capitales. Et il serait évidemment aventuré d'attribuer à Molière lui-même les ponctuations des premières éditions de ses œuvres. Néanmoins, Molière ou pas Molière, il y a une production d'effets de sens qui est tout à fait puissante et qui peut mettre l'édition, la première édition, dans un rapport avec l'oralité de la représentation. Lorsqu'on compare les ponctuations des premières éditions, ce qui maintenant est plus facile puisque ce sont celles qu'a suivi l'édition de Forestier et Bourqui, avec des ponctuations de modernisation qui commencent parfois assez tôt dans le XVIIIe siècle, qui envahissent les éditions dans le XIXe et dont on trouverait le résultat dans une édition comme celle de Couthon de 1971, on voit qu'il y a trois usages esthétiques de la ponctuation. Le premier usage, c'est une caractérisation différenciée des personnages. On peut le prendre avec un exemple très simple, qui est un vers de la scène 4 de l'acte 1 du Tartuffe, lorsque s'opposerait la ponctuation moderne qui est gros et gras, virgule, le teint frais et la bouche vermeille, à la ponctuation originelle qui est gros, virgule, et gras, virgule, le teint frais, virgule, et la bouche vermeille. La virgule entre gros et gras, en quelque sorte, fait que Tartuffe, contrairement à ce qu'on peut représenter parfois, est plus gros encore dans cette forme-là de la forme du vers. Ou bien, ce jeu peut aussi être un jeu pour caractériser des personnages. Dans Le Bourgeois Gentilhomme, scène 3, acte 2, il y a une caractérisation de les manières de dire du maître de philosophie qui utilise de nombreuses ponctuations, ce qui scande son discours, comme s'il venait de l'école, par rapport aux autres maîtres, et tout particulièrement par rapport au maître à danser, où beaucoup d'interventions n'ont aucune ponctuation et se déroulent dans une sorte de fluidité sur la page. On peut prendre cet exemple dans Le Bourgeois Gentilhomme pour montrer ce que je veux mentionner et du coup le comparer avec la ponctuation de Couthon. L'état du texte de la première édition est « Maître de philosophie ». Et que sera donc la philosophie ? Je vous trouve tous trois bien impertinents, virgule, de parler devant moi avec cette arrogance, point virgule, et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Et dans cette phrase, les mots suivants ont une lettre capitale, philosophie, science, art, métier, gladiateur, chanteur et baladin. À chaque fois, une hauteur de voix, un détachement, une emphase doit être marquée. Si vous trouvez le même texte dans une édition qui hérite de ce processus à la fois de réduction de la ponctuation et de suppression des lettres capitales, vous avez. Et que sera donc la philosophie ? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit même pas honorer du nom d'art. Tout ce que je viens de lire n'a que la virgule après « art ». Et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur et de baladin, et aucun des mots avec une lettre capitale ne l'a gardé dans cette édition. On voit donc qu'il y a là un usage de la ponctuation, quel qu'en soit le responsable, qui vise à marquer des manières de dire qui sont des éléments de caractérisation du personnage. Et ce ton sentencieux, je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance, et de donner impudemment, etc., avec des silences plus ou moins longs, marqués par la virgule et le point-virgule, donne cette forme sentencieuse d'expression qui renforce évidemment le pédantisme du maître de philosophie, opposé avec les manières de dire, par exemple, du maître à danser. C'est un premier élément, la ponctuation comme intrinsèquement caractérisant les personnages. Le deuxième, c'est que les ponctuations renvoient à ce qu'étaient les manières de jouer, c'est-à-dire les ponctuations plus nombreuses renvoient à des pauses plus nombreuses, qu'elles soient plus courtes comme la virgule ou plus longues comme le point-virgule et les deux points, et donc du coup laisse imaginer des jeux de scène, des mimiques au moins reconstituées. Un exemple là aussi spectaculaire se trouve dans la scène des portraits de Célimène, dans le Misanthrope, où elle passe en revue un certain nombre, avec ironie, un certain nombre de courtisans ou de gens des salons qui sont proposés à son exercice. Et c'est à la scène 4 de l'acte 2. On peut voir ce que était la ponctuation dans la première édition. J'ai pris un exemple parmi d'autres, c'est le portrait de Timanthe. Célimène. C'est, de la tête aux pieds, un homme tout mystère qui vous jette, en passant, un coup d'œil égaré et sans aucune affaire, est toujours affairé. Alors dans ces trois vers, il y a une virgule après C, une virgule après pied, une virgule après mystère, une virgule après jette, une virgule après passant, c'est-à-dire et une virgule après affaire. Six virgules, six pauses, brève, mais six pauses dans ces trois vers, alors que si vous vous référez à une modernisation de ce passage, vous avez « C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire est toujours affairé. » Ce qui fait d'ailleurs que la structure des deux premiers alexandrins est tout à fait plate, dans un sens, puisqu'elle est donnée sur un sol, sur une seule ligne, alors que là, elle serait comme avec un relief de hauteur ou de basse. C'est de la tête aux pieds, un homme tout mystère qui vous jette, en passant, un coup d'œil égaré. Pardon, là, un coup d'œil égaré. J'ai rajouté une virgule de trop. Donc, il y a là une manière de donner un souvenir d'une façon de dire qui prend des temps, qui utilise des pauses pour, on peut imaginer, des jeux de mains ou des jeux de visage. Et dans ce même passage, dans ce même portrait, 11 mots dans l'édition originale ont une lettre capitale au début du mot. Aucune n'a survécu dans les modernisations dont hérite l'édition de Couthon. Et au-delà de cet effet esthétique qui rapproche le texte imprimé de la représentation, du jeu des acteurs, comme disait Molière, il y a parfois une signification profonde qui tient à une virgule. On peut le voir, et qui du coup peut faire une sorte de leçon, de résumé de la pièce entière dans sa dimension morale. On peut le voir clairement avec les deux derniers vers de Tartuffe. Dans toutes les éditions modernes, et à partir du XIXe siècle, les deux vers, les vers sont suivants. Et par un doux hymen, virgule, couronné en valère, virgule, la flamme d'un amant généreux et sincère. Point. L'édition de 1669 de la pièce est celle-ci. Et par un doux hymen, couronné en valère, la flamme d'un amant généreux, virgule, et sincère. C'est-à-dire que le dernier mot de la pièce est détaché, sincère, ce qui, pour celui qui est le lecteur, peut se souvenir du premier mot ou du deuxième du titre, le Tartuffe ou l'imposteur. Tartuffe prenant d'ailleurs le sens du mot, du nom commun. Et d'autre part, il y a une majuscule sur amant, la flamme d'un amant généreux et sincère, donc qui indique déjà pratiquement une prosodie pour dire ou lire le dernier vers, et en plus qui crée un effet esthétique, puisque cet alexandrin n'est pas coupé à l'hémistiche, mais à 9 plus 3, la flamme d'un amant généreux et sincère. On a donc une ponctuation plus abondante et qui a de multiples effets, les uns liés à la caractérisation des personnages, les autres à la souvenance de du jeu des acteurs, et les troisièmes qui peuvent avoir valeur de mise en évidence in fine de la signification profonde de la pièce, par exemple ici l'opposition entre sincérité et imposture. Alors comme je le disais, attribuer à Molière un parfait contrôle et conscience de tous ses effets, c'est-à-dire de la distribution de ces virgules et lettres capitales serait évidemment exagéré, puisque, comme on peut le savoir, les compositeurs ou les correcteurs dans les ateliers typographiques pouvaient avoir leurs préférences dans les modes de ponctuation. Et l'on peut voir, selon différentes pages, feuilles ou formes composées par des compositeurs différents, des variations non seulement dans les graphies des mots, mais aussi dans la distribution de la ponctuation. Ce qui reste, même si on n'enferme pas ces décisions de ponctuation dans une volonté d'auteur, ce qui reste, c'est une perception par qui a composé le texte, d'effet d'oralité et donc du coup d'une compréhension du texte qui a donné au lecteur en restituant à la fois des effets de sens, des effets de jeu et des effets de caractérisation des personnages. De là à une puissante raison, effectivement, pour respecter et conserver les ponctuations des éditions choisies comme texte de base et donc, dans beaucoup de cas, comme première édition, mais pas toujours. Le même exercice que j'ai fait ici peut être fait sur les caractères de la Bruyère. Et il est clair qu'ici, ce sont les dernières éditions du temps du vivant de la Bruyère, contrôlées par lui, qui inscrivent au plus près les effets de signification et les modalités esthétiques voulues par la Bruyère, qui, comme Molière, joue avec des rythmes liés avec l'abondance des virgules, ce qui crée donc une sorte de rythme saccadé, staccato du texte, ou bien des passages entiers où disparaît la ponctuation comme s'il s'agissait d'une phrase dans l'argot, et n'utilise jamais le point final à l'intérieur d'un des caractères, ou presque jamais. Ce qui fait que la modernisation qui a découpé en phrases ce qui était une continuité comme un air a trahi à la fois l'esthétique musicale de la composition du texte et, d'autre part, la circulation orale par des lectures à haute voix, y compris du genre de la littérature morale. Et donc, du coup, il y a le retour récent dans des éditions, par exemple celle de l'Imprimerie nationale, à la fois à la ponctuation des dernières éditions du temps de la Bruyère et en même temps le respect des lettres capitales qui peuvent donner cet effet d'emphase, comme je le disais. J'en viens à un second point de réflexion après ces problèmes d'ordre de publication, de retour aux textes originaux, c'est-à-dire les premières éditions, et respect des valeurs sémantiques et esthétiques de la ponctuation, incluant dans la ponctuation les lettres capitales mises à un certain nombre de mots dans les vers ou les phrases, on peut en venir à le rapport entre une décision sur la signification de l'œuvre et, d'autre part, ces données proprement d'ordre matériel. Et c'est ce que fait l'édition de Forestier et Bourqui, dans la mesure où elle défend une thèse qui est celle de considérer que Molière à l'intérieur de la culture ou de la civilisation mondaine et de considérer qu'il appartient à cet esprit galant qui caractérise le monde de la culture mondaine, à la fois en termes de partage des valeurs, le naturel, la parodie, l'ironie, l'enjouement, par le fait même des thématiques des nombreuses pièces, tout particulièrement les premières, mais pas seulement, c'est-à-dire des thématiques qui sont aussi les thématiques des discussions des salons, les questions de l'amour, la casuistique sentimentale, la relation entre mariage et amour, entre mari et amant, la liberté des filles et la contrainte imposée par les pères, c'est à la fois des thématiques des conversations des salons et des thématiques des grands romans héroïco-galants du début du XVIIe siècle. Et l'on peut dire aussi, un autre élément serait la connivence entre le public de la cour, le public des mondains et Molière, dans le double ridicule, c'est-à-dire le ridicule de ceux qui s'opposent à cette culture ou civilité mondaine, les bourgeois à l'ancienne, les pédants, les dévots, et aussi un ridicule de ceux qui veulent l'imiter, mais limité avec extravagance, outrance, excès. Par exemple, les précieuses de province, ou par exemple encore les petits marquis ou les bourgeois qui se pensent comme des gentilshommes. Donc il y aurait une analyse des thématiques, des connivences et des valeurs présentes dans les pièces qui situent pleinement Molière à l'intérieur de cette culture de la mondanité. Et un autre trait plus fondamental, qui est plus proche de ce que l'on fait dans ces cours, c'est la reprise de la position d'écriture qui se veut à distance de la professionnalisation d'auteur. Et là, le lien se fait entre ce déni ou cette ironie par rapport à la position d'auteur qu'on trouve dans de nombreuses préfaces de Molière, et d'autre part, les conditions tout à fait matérielles et économiques de son écriture dramaturgique, c'est-à-dire la protection, le mécénat. Protection et mécénat dans la carrière provinciale, d'abord protégé par le duc d'Épernon, puis par, en Languedoc, les lieutenants généraux de Gaston d'Orléans, puis le prince de Conti. Et à partir de 1658, c'est-à-dire l'installation et le retour de la troupe à Paris, d'abord la protection de monsieur, le frère du roi, comme je le disais, et puis les années 1660 décisives, en 1663, Molière apparaît dans la liste des gratifications tenues par Chapelain, et en 1665, la troupe devient troupe du roi. Alors, ceci est tout à fait important pour comprendre les conditions de la production même des textes. Comme je l'évoquais, d'un côté, l'urgence de la commande, et de là, le vocabulaire qu'emploie Molière pour désigner beaucoup de ces pièces écrites comme cela, pour une commande princière ou royale, impromptu, petit crayon, ou encore l'importance dans l'œuvre de Molière des pièces qui vont être des comédies mêlées, c'est-à-dire des comédies qui incluent ou sont inscrites dans des parties chantées et dansées. Et la trajectoire de cet double effet, l'urgence de la composition, l'invention d'une nouvelle forme de comédie qui est la comédie mêlée de musique et de ballet, se dessine dès le commencement, quasi du retour à Paris, en 1662, avec Les Fâcheux, qui est une pièce qui a été commandée par Fouquet pour Vaux-le-Vicomte, qui est donnée le 15 août 1661. Le roi est présent, il est enthousiasmé par cette pièce, et il l'a fait répéter à Fontainebleau une semaine après, le 23 août 1661, et la pièce ensuite est portée au Palais Royal, le théâtre qu'avait reçu Molière à partir de 1665 et qu'il partage avec les comédiens italiens, le 4 novembre 1661. Alors, lorsque l'on prend, et je terminerai la première heure du séminaire avec cela, lorsque l'on prend l'avis qui est adressé, l'avertissement qui est adressé au lecteur de l'édition imprimée, qui, elle, est publiée l'année suivante, 1662, on voit toute une thématique qui se met en place et qui lie étroitement les conditions esthétiques de la composition avec les dépendances sociales du mécénat. L'avertissement commence ainsi. « Jamais entreprise de théâtre ne fut si précipitée que celle-ci. Et c'est une chose, je crois, toute nouvelle, qu'une comédie ait été conçue, faite, apprise et représentée en 15 jours. Je ne dis pas cela pour me piquer de l'impromptu et en prétendre de la gloire, mais seulement pour prévenir certaines gens qui pourraient trouver à redire que je n'ai pas mis ici toutes les espèces de fâcheux qui se trouvent. Je sais que le nombre en est grand, et à la cour et dans la ville, et que, sans épisode, j'eusse bien pu en composer une comédie de 5 actes, bien fournie, et avoir encore de la matière de reste. Mais, dans le peu de temps qui me fut donné, il m'était impossible de faire un grand dessin et de rêver beaucoup sur le choix de mes personnages et sur la disposition de mon sujet. Je me réduisis donc à ne toucher qu'un petit nombre d'importants, et je pris ceux qui s'offrirent d'abord à mon esprit et que je crus les plus propres à réjouir les augustes personnes devant qui j'avais à paraître. Et pour lier promptement toutes ces choses ensemble, je me servis du premier nœud que je pus trouver. Ce n'est pas mon dessein d'examiner maintenant si tout cela pouvait être mieux et si tous ceux qui s'y sont divertis ont ri selon les règles. Le temps viendra de faire imprimer mes remarques sur les pièces que j'aurai faites et je ne désespère pas de faire voir un jour, en grand auteur, que je puis citer Aristote et Horace. En attendant cet examen, qui ne viendra peut-être point, je m'en remets assez aux décisions de la multitude et je tiens aussi difficile de combattre un ouvrage que le public approuve que d'en défendre un qu'il condamne. On voit donc qu'il y a à la fois la restitution des conditions de la commande, d'abord de Fouquet, puis ensuite du roi, qu'il y a d'autre part cette moquerie contre l'auteur, et l'allusion est très précise, en 1660, Corneille avait édité son théâtre avec des examens pour chacune des pièces. Donc la distance à la position d'auteur est à la fois une distance sociale, mais en même temps une distance dans l'espace plus précis du champ littéraire, comme aurait dit Bourdieu, et qui est une moquerie ici contre ceux qui posent à l'auteur, comme le fait Corneille, dans les examens de ses pièces. Et le texte continue, le dessein était de donner un ballet aussi. Et comme il n'y avait qu'un petit nombre choisi de danseurs excellents, on fut contraint de séparer les entrées de ce ballet et la vie fut de les jeter dans les entractes de la comédie afin que ces intervalles donnassent temps aux mêmes baladins de revenir sous d'autres habits. De sorte que pour ne point rompre aussi le fil de la pièce par ses manières d'intermède, on s'avisa de les coudre au sujet du mieux que l'on put et de ne faire qu'une seule chose du ballet et de la comédie. Mais comme le temps était fort précipité et que tout cela ne fut pas réglé entièrement par une même tête, on trouva peut-être quelques endroits du ballet qui n'entrent pas dans la comédie aussi naturellement que d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est un mélange qui est nouveau pour nos théâtres et dont on pourrait chercher quelque autorité dans l'Antiquité. Et comme tout le monde l'a trouvé agréable, il peut servir d'idée à d'autres choses qui pourraient être méditées avec plus de loisir. Donc cette idée qui va être très importante, qu'on a un peu oubliée, puisqu'en général, on ne représente pas, sauf à une date plus relativement récente, les comédies mêlées de Molière dans leur totalité, c'est-à-dire avec le ballet, les chants, les arias, les danses, et situées soit à l'intérieur de la comédie écrite par Molière dans des entractes, soit liée plus étroitement encore à cette comédie, comme dans le cas du bourgeois gentilhomme ou dans le cas du malade imaginaire. Mais l'invention de ce genre de la comédie mêlée, qui va avoir évidemment pour conséquence une plus grande déploration quant à la perte qu'impose l'édition imprimée par rapport à ces ornements qui sont ceux de la scène lorsque la comédie est donnée dans un palais princier ou royal. Et la dernière chose, je termine avec ça, il y a une dédicace dans l'édition de 1662 des Fâcheux qui est une dédicace au roi. Et la rhétorique de Molière, qui a mis à distance cette posture d'auteur, en fait va récupérer ici une des rhétoriques les plus classiques du rapport de l'auteur au dédicataire, au protecteur. « Sire, j'ajoute une scène à la comédie, et c'est une espèce de fâcheux assez insupportable, qu'un homme qui dédie un livre. Votre Majesté en sait des nouvelles plus que personne de son royaume, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle se voit en butte à la furie des épîtres dédicatoires. Mais bien que je suive l'exemple des autres, et me mette moi-même au rang de ceux que j'ai joués, j'ose dire toutefois à votre Majesté que ce que j'en ai fait n'est pas tant pour lui présenter un livre que pour avoir lieu de lui rendre grâce du succès de cette comédie. Je le dois, sire, ce succès qui a passé mon attente, non seulement à cette glorieuse approbation dont votre Majesté honora d'abord la pièce et qui a entraîné si hautement celle de tout le monde, mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter un caractère de fâcheux dont elle eut la bonté de m'ouvrir les idées elle-même et qui a été trouvé partout le plus beau morceau de l'ouvrage. Il faut avouer, sire, que je n'ai jamais rien fait avec tant de facilité, ni si promptement, que cet endroit où votre Majesté me commanda de travailler. J'avais une joie à lui obéir qui me valait bien mieux qu'Apollon et toutes les muses, et je conçois par là ce que je serais capable d'exécuter pour une comédie entière si j'étais inspiré par de pareils commandements. C'est un texte magnifique, puisque d'un côté, c'est évidemment une épître dédicatoire qui commence par l'ironie, le rejet de toutes ces épîtres dédicatoires, et qui sont les écrits d'autant de fâcheux que les fâcheux qui sont présentés dans la comédie même de Molière. C'est un peu la rhétorique du prologue du Quichotte, le prologue qui se présente comme l'impossibilité d'en écrire un et l'impossibilité de publier l'histoire. Et d'autre part, c'est cette reprise ici avec, à l'intérieur de cette ironie de la dénonciation du genre que le texte est en train de mobiliser, la reprise de cette rhétorique de la dédicace qui attribue au dédicataire, en fait, l'œuvre qui lui est dédiée, qui est la rhétorique qu'on peut trouver au XVIe, XVIIe siècle, chez Galilée, par exemple, dans le Sidereus Nuncius. Il y a un texte fameux de Corneille qui attribue à Richelieu, qui aurait bien voulu composer lui-même des comédies, mais qui attribue à Richelieu l'œuvre elle-même parce qu'il suffit de lire sur son regard ce qui lui plaît ou lui déplaît pour savoir ce qu'il faut écrire. Et là, Molière reprend en charge cela, puisqu'il attribue au roi le succès de la pièce, puisque le roi lui a donné, en décrivant un fâcheux, alors toute une discussion pour savoir quel était le personnage que peut-être le roi avait suggéré, qui a été le morceau le plus apprécié de la pièce et qui, du coup, fait comme une synecdoque, ce morceau vaut pour la totalité, donc le roi est l'auteur de ce qu'il reçoit. Et cette idée-là de la rhétorique de la dédicace, qui est qu'on offre aux puissants ce qu'il a toujours possédé, les astres médicéens, le génie de la composition dramatique, l'œuvre elle-même qu'il a inspirée, est un puissant mécanisme que Molière reprend à son compte dans cette modalité de distance ironique par rapport au genre de la dédicace qui se trouve donc du coup plus puissant encore à partir du moment où il est prouvé qu'il peut être manié une fois même que l'on l'a condamné, moqué ou décrié. Donc on a un modèle qui va ensuite accompagner toute la carrière de Molière, puisque de très nombreuses pièces qui pourront avoir une existence séparée dans la forme imprimée sont en fait inscrites à l'intérieur de ces divertissements ou de ces fêtes royales et sont elles-mêmes soit inscrites dans un spectacle qui les déborde, soit accueillant dans leurs textes ou leurs entr'actes des morceaux chantés et dansés. Dans le premier cas, on peut penser au plaisir de l'île enchantée de 1664, ou bien la psyché de 1671, ou dans l'autre cas, on peut penser à Georges Dandin, sur lequel je ne reviendrai peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, Georges Dandin inscrit ou recevant une pastorale en ballet et musique. Donc, on a ici un autre trait fondamental de cette interprétation de Molière, non seulement le situer au sein de la culture mondaine, mais aussi le situer très profondément à l'intérieur des liens de protection et du mécénat et de leurs effets sur les genres ou l'esthétique des pièces. Alors, à notre ordinaire, on fait une petite pause. On peut faire une petite pause de 5 minutes pour un entr'acte, puisqu'il y a là une... Et on reprend dans 5 minutes à 11h14.